franceinter.fr.
L'efficacité des traitements contre le virus du sida augmente d'année en année et l'espérance de vie des malades augmente également. Une étude publiée hier en apporte une démonstration spectaculaire. Des chercheurs américains affirment qu'aujourd'hui, un malade du sida fumeur a deux fois plus de chances de mourir à cause de la cigarette qu'à cause du VIH, un symbole, mais aussi une obligation de prévention chez les malades exposés à un sur-risque. On en parle avec vous, professeur Jean-François Delfrécy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Agence nationale de recherche contre le sida. Il s'agit ici d'une étude menée aux États-Unis. Est-ce que ces résultats sont transposables à la France ou à l'Europe ?
Oui, parfaitement. Et d'ailleurs, des résultats du même type ont déjà été donnés par des équipes françaises dans une cohorte de l'ANRS, il y a maintenant un an, la cohorte Aquitaine, et qui montrait finalement, qui essayait de répondre à la question de quoi meurt-on quand on est séropositif actuellement ? C'est la question qui était en 2015, mais elle reste totalement d'actualité. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, on meurt assez peu du VIH lui-même, mais plutôt de complications un peu secondaires de type cancer et cardiovasculaire.
Allez-y.
Et parmi les patients qui décèdent du cancer, eh bien, on avait déjà retrouvé cette notion de relation avec, bien sûr, le tabac.
Mais est-ce que les personnes atteintes du VIH fument plus que le reste de la population ?
La réponse est oui. Pour des raisons diverses et variées, parce que à la période la plus difficile, quand on n'avait pas les traitements antirétroviraux, quand on commençait seulement à les traiter avec des traitements efficaces, ça n'a pas été notre priorité pour nous médecins de s'accrocher à leur donner des messages autour de l'arrêt du tabac, puisqu'ils avaient une durée de vie très courte. Donc on a une population qui en France, par exemple, parmi les patients séropositifs pour le VIH, c'est à peu près 38% des patients qui ont été de gros consommateurs de tabac ou qui continuent à l'être, ce qui est beaucoup plus que la population générale.
La question qui vient ensuite, c'est est-ce que les traitements eux-mêmes exposent à plus de risques de cancer liés au tabac ?
La réponse, non. La réponse est non. Les traitements antiviraux, hein, vous avez tout à l'heure discuté peut-être de traitements dont on ne sait pas l'efficacité.
Oui, pour Alzheimer.
Les traitements antiviraux, c'est un des grands succès, hein, c'est un grand succès thérapeutique de la médecine au cours des 15 dernières années. Il y avait un taux de mortalité massif avant ces traitements, et puis on est rentré dans une sorte de maladie chronique avec le VIH. Ils bloquent la multiplication du virus, ils restaurent en partie la réponse immunitaire, mais voilà, ils n'enlèvent pas les autres facteurs de risque. Et quels sont les autres facteurs de risque ? Eh bien, c'est le tabac, c'est le surpoids, c'est les défauts d'alimentation, et puis on a affaire à une population VIH qui commence à vieillir puisqu'elle survit, et elle survit grâce et avec les traitements, mais aussi avec ce facteur de risque qui est le tabac.
Mais justement, Jean-François Delfrécy, pour compléter la question d'Axel, les traitements antirétroviraux n'augmentent pas les risques de survenue des effets du cancer des poumons ?
Non, la réponse, non. La réponse, c'est les traitements antirétroviraux restaurent la réponse immunitaire des patients qui sont traités de façon incomplète. C'est-à-dire que les patients VIH, même parfaitement traités, même, je dirais, avec cette notion de maladie chronique, ils ont un risque de cancer qui est un tout petit peu plus élevé que la population générale. Parce que tabac et parce que leur système immunitaire n'est pas qualitativement, n'est pas complètement rétabli.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a le sida, on meurt de vieillesse ou on meurt de la cigarette ? Mais la question de mourir du sida s'efface un petit peu, on dirait quand même.
Oui, pour quelqu'un comme moi qui a connu le début avec des taux de décès dans les services qui étaient spécialisés massifs, les choses ont complètement changé. Je dis bien au Nord. La situation reste dramatique dans les pays du Sud et faisons bien attention à ce qu'on va dire. Parce que la situation reste assez identique malgré tous les progrès qui ont été faits. Donc, pour qu'un patient séropositif, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui reste lourde parce que plus je prononce ce mot de maladie chronique, plus je me dis, mais dans le fond, on livre ça, et les jeunes qui n'ont pas connu le sida maladie, le sida mortalité, ils disent, il nous dit que c'est une maladie chronique, et pourquoi on prend des précautions, hein?
Ouais.
Et donc, les médecins, on est dans une situation complexe, hein, vis-à-vis de ça. Néanmoins, c'est quand même un succès, on est bien dans une maladie chronique, mais c'est une maladie chronique qui est lourde, il faut prendre des traitements tous les jours, ces traitements ont quand même quelques effets secondaires, même s'ils en ont moins qu'avant, et il y a ces sur-risques, je vous disais, de cancer et puis d'atteinte cardiovasculaire.
Donc aujourd'hui, faire baisser les chiffres de la mortalité du sida, c'est faire baisser le taux de fumeurs parmi les malades alors ?
C'est deux choses. C'est d'abord essayer d'arrêter l'épidémie. Hein, et vous savez que c'est un objectif à la fois stratégique et scientifique. C'est comment peut-on arrêter cette épidémie? Et pour ça, on a des objectifs autour du message de prévention. Hein. Le sida, c'est pas une maladie qui arrive tout d'un coup comme ça. Ça s'attrape. C'est une maladie sexuellement transmissible.
Ouais. Donc serait simple, au fond, de ne pas l'attraper.
Donc ce qu'il faut essayer, c'est d'éviter de l'attraper. Le message de prévention, il reste entier, plus, hein, même si on parle de maladie chronique par ailleurs. Hein.
Oui, mais quel doit être le message d'un médecin qui est face à un patient qui est malade et qui est fumeur maintenant? Il doit changer.
Alors, bien sûr, il doit changer, puisque ce patient est suivi, on doit lui dire que, puisqu'il a une durée de vie qui va être longue, il faut qu'il arrête le tabac, mais comme il le dirait à la population générale, il faut vérifier avec lui qu'il n'a pas de surpoids, il faut vérifier qu'il n'a pas de risque, par exemple, que familiaux cardiovasculaires, qu'il n'est pas hypertendu, qu'il a une activité physique. Enfin, on revient à des règles de médecine, de bonnes pratiques médicales et de relations médecin-patient, un peu différentes de celles qu'on a pu avoir dans le VIH, puisque ça, c'est monsieur tout le monde maintenant.
Merci pour votre éclairage, Jean-François Delfrécy, donc à la suite de la publication de cette étude américaine. Merci à vous, et puis Axel, on se retrouve demain.
Il me semble, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le bouclier magnétique de la Terre s'est fendu pendant quelques minutes, le 20 juin 2015. Un souffle de rayons cosmiques émanant d'une éruption solaire géante est venu s'écraser sur la magnétosphère. Ce phénomène très rare survient lorsqu'une éruption solaire est massive. Il est suivi de près par les scientifiques pour en surveiller les effets délétères potentiels sur notre santé et puis aussi sur nos technologies. Selon les simulations menées par des chercheurs du groupement GRAP3, le 20 juin 2015 à minuit, donc le bouclier magnétique de la Terre s'est fendu temporairement, permettant l'entrée de ces rayons dans l'atmosphère. Une information importante en cas de nouvelle éruption. Quand les chasseurs rendent les populations d'oiseaux plus intelligentes, cette drôle d'étude danoise s'appuie sur la théorie de la sélection naturelle pour affirmer qu'en tuant les oiseaux assez bêtes pour se faire tirer dessus, eh bien la chasse sélectionne avec le temps des populations plus intelligentes. Ces conclusions s'appuient sur l'étude anatomique de canards victimes de la chasse qui, selon les mesures, ont en moyenne un cerveau plus petit que la moyenne de l'espèce, une étrange utilité scientifique trouvée à la chasse, mais qui a de quoi de faire sourire. Et puis il y a un soupçon de bonobo chez le chimpanzé, même si on savait déjà que ces deux espèces de grands singes étaient génétiquement très proches, on ne se doutait pas à quel point, après avoir analysé la totalité du génome de 75 chimpanzés et bonobos, des chercheurs de toute l'Europe ont découvert que l'une des quatre sous-espèces de chimpanzés, Pantroglodyte, avait 1% d'ADN de bonobo. C'est la preuve que des hybridations tardives ont eu lieu entre ces deux espèces après leur séparation. Deux fricotages, datés l'un à 1,5 million d'années et l'autre à 200 000 ans.